4063 points, un marché pas très animé, 1,6 milliard d'euros négociés, et puis un volume d'affaires de l'ordre de 1,6 milliard d'euros. Donc, depuis le début de l'année, le CAC 40 se retrouve pratiquement inchangé. On a tout regagné, puisqu'on est même très exactement à 3063 points au niveau du 31 décembre 2002. En ce qui concerne les valeurs européennes, l'Euro First 80 gagne 21%. Le dollar, qui avait beaucoup baissé hier, se stabilise, mais dans ses bas cours, à 1,1820 pour 1 euro. On regarde tout de suite les cours de notre seconde liste avec Renault qui gagne 2,47%, 2,5% à 39,38€, Saint-Gobain 30,96 moins 0,7, Sanofi 53,60 moins 0,2, Schneider Electric 41,41 plus 2,10, Société Générale 54,80 plus 1,9, Sodexo Alliance 22,96 plus 3,70, Suez 15,03 plus 2,30, TF1 26,14 plus 1,5, Thales à 24,97 perdait 2,6%, Thomson 15,75 plus 4, Total 129,40 plus 0,7, Veolia à 19,07 gagne, perd 0,6%, 26,58,55 moins 0,1. Vivendi Universal 16,36 moins plus, alors là 2,8% pour Vivendi Universal. Wanadu 6,16 moins 0,3%. Parmi la zone euro, Alta 10 à 21,19 perd 1,9, Arcelor 9,66 plus 3,3, Deutsche Bank 53,85 plus 1,2, Dexia 11,62 plus 2,7, ADS 10,09 moins 0,30, Equant 6,36 plus 3,1, Royal Dutch 39,62 moins 0,8, Siemens 42,65 plus 1,50, ST Micro 19,92 plus 2,10.
Merci Jean-Pierre Gaillard, merci, à tout à l'heure, tout de suite sur France Inter, 14h et bientôt 5 minutes, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui une histoire du mariage.
Mieux encore être marié qu'être mort. Molière.
Pour éviter à Adam et Ève de tomber dans les pièges de la fornication, le mariage serait donc aussi vieux que le premier couple de l'histoire. Mais bien avant d'être un sacrement chrétien, il était d'abord une alliance entre deux familles et il y était beaucoup moins question d'amour que d'argent. C'est l'idée en tout cas que les Grecs et les Romains se faisaient du mariage, célébré alors sans les fastes et les rites qui seront définis plus tard par toutes les religions du monde. Mais si aujourd'hui on se marie beaucoup moins souvent, si le mariage n'est plus le seul moyen de vivre en couple, l'amour y est beaucoup plus présent qu'autrefois, et le mariage continue de faire rêver, surtout quand il unit un prince et une actrice à Monaco en 1956.
L'acte le plus solennel a pour cadre la cathédrale de la principauté. Ravissante dans sa robe nuptiale, rehaussée de précieuses dentelles de Bruxelles, la princesse est exactement la jeune mariée que rêve d'être sans doute la plupart des jeunes filles.
Pour légitime épouse. Grâce Patricia, ici présente, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Grâce Patricia, voulez-vous prendre pour légitime époux Régnier Louis Henri Maxence Bertrand, ici présent, selon le rite de notre mère, la Sainte Église. Ego conjungum vos in matrimonium, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Matisse Hélène, bonjour.
Bonjour. Alors,
c'était un des mariages les plus célèbres du XXe siècle, celui du prince Régnier de Grâce de Monaco en 1956. C'était avant ce qu'on appelle maintenant un peu la crise du mariage, la baisse de la nuptialité. Or, dans un livre qui est l'éloge du mariage, vous dites que aujourd'hui, malgré tout, après une baisse effectivement du nombre des mariages, on se marie de plus en plus. On a l'impression que le mariage fait encore rêver.
Ils se sont mariés donc en 1956. On était dans une période, au contraire, de grand nombre de mariages, et si on reste en France, il y a une très forte baisse à partir des années 1975. Et on a rapidement dit que le mariage était enterré par l'union libre, était enterré par le Pax aussi. Or, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une remontée tellement exceptionnel, mais jusqu'à l'an dernier, on est repassé au-dessus des chiffres des 300 000 mariages. Ça fait tout de même beaucoup de mariages encore, et ça veut dire que beaucoup de jeunes et de moins jeunes y croient et veulent y croire.
Et même d'étrangers. Dans votre livre, on voit des Chinois ou des Japonais, dont ce n'est pas du tout la culture, venir se marier à l'occidental, en Europe ou en Amérique.
Oui, c'est très très intéressant de voir que le mariage à l'occidental, avec la robe blanche, les fastes, les réunions, les parents et les amis, se répand comme une traînée de poudre sur le monde. Et jusqu'en Chine, maintenant, au fond des campagnes chinoises, les jeunes mariés revêtent cette robe blanche, cette robe qui, finalement, est une robe d'un jour et qui traduit bien tout cet aspect festif qui marque cette journée spéciale.
Alors, votre livre, Martine Segalen, s'appelle « L'éloge du mariage ». En fait, c'est une histoire.
C'est en tout cas pas une apologie.
Non. Hein.
Je ne
non,
fais
non.
que faire l'éloge, si je puis dire, d'une institution que j'admire dans ses transformations et ses résistances.
Et puis, c'est une histoire, donc, qui est très longue. Hein. Le mariage est universellement connu depuis toujours. Quand est-ce qu'il apparaît, en fait?
Mais je ne poserai pas la question en ces termes, étant donné que tous les ethnologues, et Claude Lévi-Strauss en tête, ont montré que c'était une caractéristique de toutes les sociétés. Dans toutes les sociétés humaines, à partir du moment où il y a humanité, il y a famille, forme de famille très différente des nôtres, et on a besoin notamment de savoir à qui appartiennent les enfants qui sont nés de tel ou tel couple. Donc, d'une certaine façon, il y a l'émergence du mariage, et Lévi-Strauss nous a bien expliqué que partout, cette institution permet de régler la prohibition de l'inceste et la division sexuelle du travail. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une naissance du mariage chez les Grecs, par exemple, ou chez les Romains, d'autant plus que le mariage était très réduit, mais ni même dans les périodes antérieures, mais on est à peu près certain, on sait que dans toutes les sociétés du monde, il y a des formes de mariage d'une manière ou d'une autre, notamment pour légitimer les enfants et savoir à qui appartiennent ces enfants si précieux.
Oui, parce que vous citez les Romains, Martine Segalen, mais on peut se demander au fond pourquoi ils se marient. Est-ce que c'est pour transmettre un patrimoine? Ils peuvent le faire en léguant leur patrimoine à qui ils le souhaitent. Est-ce que c'est pour assurer la lignée? Ils peuvent adopter des enfants. Est-ce que c'est pour pouvoir faire l'amour? Or, l'amour, il n'y avait aucun interdit dans l'Antiquité romaine. Quelle est la vraie raison?
Bon, ce qui nous gêne là, c'est d'employer notre terme français, si vous voulez, contemporain, appliquer une institution qui était totalement différente. D'abord, ils pouvaient se marier, divorcer, répudier, changer de femme, et beaucoup des Romains célèbres qu'on a connus ont eu plusieurs épouses. Et on sait aussi que pour finalement avoir ces enfants légitimes, effectivement, ils pouvaient soi-même dénoncer, enfin ne pas prendre leurs propres enfants biologiques comme leurs descendants, leurs héritiers, et ils pouvaient très facilement adopter. Donc en fait, là, il y a des questions de transfert de biens, de présence de femmes qui sont importantes. Les historiens, c'est pas ma partie ni ma période dont je suis spécialiste du tout, mais les historiens ont montré, semble-t-il, qu'il y avait des grands problèmes de fécondité à Rome, et que finalement une épouse féconde, eh bien, on se la passait d'époux à époux pour assurer la descendance. Et c'est vrai que les questions de fécondité et de mortalité dans les époques anciennes sont très importantes.
Et puis surtout, vous le rappelez, ce n'était pas à Rome une cérémonie religieuse, et d'ailleurs ça ne l'était pas non plus au début du christianisme.
Ni chez les barbares qui sont arrivés du nord, bien entendu, et c'est le christianisme qui petit à petit va imposer une seule norme et une seule forme. Mais ça va prendre du temps.
Oui, effectivement, puisqu'au début du Moyen-Âge, donc, c'est une cérémonie purement profane qu'on fait de temps en temps ou accessoirement en présence d'un prêtre ou d'un moine. Mais ce n'est pas encore un sacrement. La revue de texte de Stéphanie Duncan.
Oui, pendant tout le haut Moyen-Âge et environ jusqu'au XIIe siècle à peu près, l'Église fait de grands efforts pour imposer les règles du mariage chrétien. Mais les habitudes anciennes sont tenaces, notamment chez les nobles qui pratiquent sans complexe le rapt, la polygamie, le concubinage, etc. Un exemple, dans un récit littéraire, une chanson de geste, le roi Louis distribue à ses vassaux des fiefs, un château, des terres, et en prime, il propose une femme, à qui évidemment on ne demande pas son avis. Au chevalier Guillaume, voilà ce que le roi Louis propose. Le comte est mort, prenez donc sa femme. Autre exemple, au VIe siècle, l'histoire véridique d'un noble, je cite, débauché à l'excès, passionné par les femmes, adonné grandement au plaisir de la gueule, de la fornication, ainsi qu'à toutes sortes de malpropretés. Vous avez remarqué que le texte est plutôt d'un religieux. Il se débauchait souvent avec une femme, il lui tondit la chevelure et l'ayant affublé d'un ami masculin, l'emmena avec lui dans une autre cité. Mais la famille de la femme, les ayant découverts, met l'homme sous bonne garde. Quant à la femme, il la brûle. Bah voyons. En l'église, lutte tant bien que mal donc contre la polygamie, le remariage et la répudiation des épouses. En 830, un évêque le crie haut et fort. Il faut que le mari et son épouse restent fidèles l'un à l'autre. Il n'est pas permis au mari d'avoir une concubine. Alors, il y en a un qui ne donne tout de même pas vraiment l'exemple, c'est Charlemagne. Quand on voit la liste de ses femmes, avec des noms en plus invraisemblables.
Empereur sacré par le pape.
Eh oui.
Empereur chrétien. Alors,
Charlemagne, raconte donc Eginhard, son biographe, Charlemagne épousa la fille du roi des Lombards. Il la répudia au bout d'un an, on ne sait pas pourquoi. Et se maria ensuite avec Hildegarde, une suave de haute noblesse. Ensuite, il épousa Fastrade. À sa mort, il épousa Liutgarde. Et à la mort de celle-ci, Charlemagne eut 4 concubines. Madelgarde, Gervinde, Reine et Adelinde. Ben voilà. Alors, les résistances sont rudes. Encore au XIIe siècle, Guillaume le Roux, fils et successeur de Guillaume le Conquérant, subit les foudre de l'Église. Il n'eut point d'épouse légitime, se livra à une obscène fornication et à de fréquentes liaisons infâmes. Alors, il arrive même que ce soit les femmes, mais oui, les femmes qui ne respectent pas les lois du mariage. Un texte du XIe siècle évoque le cas de Normandes qui se lassent de filer la laine pendant que leur mari conquiert l'Angleterre. En ce temps-là, dit la chronique, quelques Normandes, en proie au feu des passions les plus dévorantes, sollicitent leur mari de revenir, ajoutant que si leur retour n'était pas prochain, elles se pourvoiraient d'autres maris. Et notre homme d'église s'exclame « Que peuvent faire des hommes honorables si leurs femmes lascives polluent le lit conjugal par l'adultère ?»
Un commentaire, Martine Segrène, on sent bien qu'avant le XIIe siècle, l'église réprouve le divorce, le concubinage, l'adultère, mais elle ne peut pas les empêcher encore. Elle n'est pas encore maîtresse, si je puis dire, du mariage.
L'Église se constitue petit à petit sa doctrine et elle arrive, en fait, elle est dans une situation très paradoxale parce que il régnait donc ce système gallo-romain, mettons, d'une religion qui était une religion domestique où l'important était d'avoir des héritiers et les héritiers allaient faire le culte des mânes de leurs parents défunts. Et donc l'adoption, le divorce, tout cela était absolument monnaie courante. Et l'Église va travailler la société pour essayer de lui imposer des règles complètement contraires. Comme vous le dites, effectivement, interdire le remariage, interdire l'adultère, interdire l'adoption, interdire les mariages entre proches parents, qui étaient aussi l'obsession de l'Église, et c'était des mariages, si on parle tellement de remariage, d'adultère, etc., c'est que c'était évidemment des raisons politiques qui poussaient tous ces petits nobliaux qui étaient dans la société féodale en train de se battre les uns contre les autres à essayer de faire la paix, vous savez. Et donc l'Église travaille la société et ça va prendre beaucoup de temps et toutes les années et tous les siècles que vous décrivez sont effectivement des siècles de désordre à ses yeux.
Jusqu'au XIIe siècle, date à laquelle ça devient un sacrement, puis alors donc elle codifie le mariage avec quand même le souci, on le sent bien, Martine Segalen, de protéger la femme, par exemple en interdisant la polygamie, en imposant la fidélité, même si elle a du mal
oui,
à faire.
Et même, on peut dire qu'elle assure la promotion de la femme dans la mesure où, théoriquement, les époux doivent donner leur libre consentement, à condition qu'ils soient majeurs. Ce qui veut dire qu'elle lutte, théoriquement, contre des mariages qui seraient imposés par les parents, pour des raisons économiques, à leur fille, par exemple. Et de cette façon-là, on a pu dire que l'Église avait promu la condition féminine, mais enfin, ça a pris des siècles avant d'y arriver.
En tout cas, ça, c'est dans le mariage consenti, ça, c'est plutôt dans les textes que dans la réalité, puisque pendant longtemps encore, le mariage va se décider entre les parents des mariés, et puis avec l'accord du seigneur ou du roi, et puis l'amour, ben, il n'y a pas beaucoup de place.
Milady Viola.
Lord Wessex.
Je viens de parler à la reine. Le consentement de sa majesté est requis lorsqu'un Wessex prend femme, et une fois donné, son consentement devient un ordre.
Songez-vous à vous marier, Milord ?
Votre père aurait pu vous en informer. Il m'a acheté à votre intention. Il reviendra de ses terres pour nous voir mariés dans 2 semaines à compter de samedi.
Mais je ne vous aime pas, Milord.
Votre père était un marchand, madame. Vos enfants auront des armoiries et je retrouverai ma fortune. C'est là le seul aspect de l'affaire à considérer.
Pourquoi moi ?
Braverez-vous votre père et votre reine ?
La reine a consenti.
Elle veut vous examiner à Greenwich dimanche prochain. Soyez soumise, reconnaissante, modeste et brève.
Je ferai mon devoir, Milord.
C'était un extrait du formidable film Shakespeare in Love. On voit bien que le mariage à l'époque de Shakespeare est resté quand même un engagement entre deux familles et pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'amour, Martine Segalen. L'amour vient en supplément.
Oui, mais alors ça a duré beaucoup plus longtemps que Shakespeare.
Oui,
il suffit de lire les correspondances au 19e siècle. On essaye de trouver des époux assortis et où ça passe par des correspondances entre Paris et la campagne pour trouver des époux assortis. Et il y a une assez belle phrase que je cite dans ce livre, qui est quelque chose comme un fils qui s'adresse à son père en lui demandant « Qui me destinez-vous comme épouse ?» Et le père lui répond « Monsieur, occupez-vous de vos affaires. » C'est-à-dire que vraiment, l'affaire du mariage, elle est entre les mains des parents et en articulation complètement avec le système que l'Église a mis en place, évidemment.
Et pour des raisons d'argent, il s'agit, on l'a entendu, de redorer le blason.
Il ne faut pas employer le terme d'argent, parce que ça a l'air mesquin, si vous voulez. Hein. Non, mais on est dans une autre logique, qui est une logique de lignée familiale, qui est une logique de groupes familiaux qui ont un certain honneur, un certain patrimoine. Et l'amour n'a rien à voir là-dedans. Et il ne faut pas que nous le voyons avec nos yeux d'aujourd'hui, nous qui sommes des gens de l'affectif, de l'amour, quelque chose, un sentiment qui est valorisé depuis deux siècles bientôt. Alors que là, c'est pas à nous de les critiquer pour la façon... On est dans un système social complètement différent.
Et la dot, par exemple, a une grande importance.
La dot aura une grande importance. Alors là, on ne parle que des nobles et des seigneurs en ce moment, et pour cause, parce qu'on n'avait pas de source sur eux. Mais la dot, elle a une grande importance, surtout en milieu bourgeois, et dans les milieux populaires aussi, n'est-ce pas? Puisque avec les dots, on a des transferts de biens importants pour les propriétés. Et c'est vrai que les femmes sont des véhicules de patrimoine dans nos sociétés occidentales qui ont la caractéristique d'être des sociétés à d'évolution égalitaire. C'est-à-dire que hommes et femmes, en principe, sont héritiers égaux devant le patrimoine familial, ce qui n'est pas le cas dans bien nombreuses sociétés.
Alors Martine Segalen, en tout cas à cette époque-là, et depuis donc le XIIe siècle, l'Église a acquis le monopole du mariage. Aucun mariage n'est valable s'il n'est pas célébré par un prêtre. Et alors, qu'est-ce qui se passait pour, par exemple, les Français qui n'étaient pas catholiques, qui étaient protestants ou qui étaient juifs?
Non. Alors, d'abord, on est au XIIe siècle, ça va prendre du temps avant que l'Église ne parvienne à cela. Il faut d'abord qu'elle ait des réseaux d'églises et de chapelles partout, avec un personnel de prêtres qui vont pouvoir marier les gens. Donc, pour l'instant, nous ne parlons que des croûtes d'élite, entre guillemets, de la société. On ne parle pas du tout de la société paysanne. Et effectivement, les protestants et les juifs se marient à l'intérieur de leur culte et de leur religion, mais ils ne sont pas du tout, en tout cas les juifs jusqu'à la Révolution, reconnus. Et ils sont hors la loi d'une certaine façon, et les protestants, après la révocation de l'édit de Nantes, de la même façon. Et c'est la Révolution qui leur donnera leur place avec le mariage civil.
Tandis que de son côté, eh bien, l'Église adopte un rituel qui n'a pas beaucoup changé jusqu'à aujourd'hui.
Mes amis, nous sommes réunis ici sous le regard de Dieu et devant cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage, cette noble institution qui remonte à l'origine de l'homme. Promettez-vous de l'aimer, de la protéger, de la garder pour le meilleur et pour le pire, et de lui rester fidèle quoi qu'il arrive jusqu'à ce que la mort vous sépare?
Oui.
De l'aimer et de le chérir.
Jusqu'à ce que la mort vous sépare.
Jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Et en ce jour, je m'y engage sur ma foi.
Et en ce jour, je m'y engage sur ma foi.
Les alliances, s'il vous plaît.
Inter 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le mariage.
Alors l'anneau, le voile aussi, la robe, ce sont des symboles très connus du mariage chrétien, mais qui ne sont pas spécifiquement chrétiens, Martine Segalen. Par exemple, l'anneau, il vient d'avant le christianisme, il existait avant.
Oui, enfin l'anneau a une forme symbolique très importante qui représente, maintenant on parle de l'anneau de mariage comme on dit l'alliance même, pour signifier ce que c'est, mais c'était autrefois donné en gage de foi. Souvent, le fait que ça soit un objet d'or, l'or a une valeur prophylactique politique, l'or a une valeur symbolique très importante. Donc l'anneau.
Même sexuel, vous dites, un symbole sexuel.
Sexuel, absolument. Ouais. L'anneau, le voile sont des rituels qui sont présents depuis longtemps. Mais ça a tout de même changé au cours du temps, si vous voulez. Le prêtre, d'abord, pendant longtemps, n'a été qu'un témoin de la cérémonie. Puis au fur et à mesure que l'Église mettait son emprise sur le rituel, aucun mariage n'a été toléré en dehors, justement, de l'Église. Et l'Église, notamment, se luttait contre toutes ces cérémonies où, devant témoins, on s'échangeait des paroles, où on s'échangeait un air de flûte, on s'échangeait une petite branche de prunelle, et ensuite, la jeune fille succombait aux appels, au charme du jeune homme, et surtout trouvant enceinte devant un tribunal, eh bien l'Église condamnait le jeune homme à épouser la jeune fille. Et puis au fur et à mesure que l'Église a mis son emprise là-dessus, les jeunes gens n'ont plus du tout être obligés de réparer, si j'ose dire, parce qu'il fallait absolument passer devant l'Église pour légitimer les enfants. Et il y a eu un succès extraordinaire dans la société rurale française, c'est qu'il y avait très peu d'enfants illégitimes.
Alors ça, c'était pendant que l'Église a eu le monopole très longtemps du mariage, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution. Mmh. Là, tout change en 1792. Le jour même, d'ailleurs vous précisez que le 20 septembre 1792, c'est le jour même où on abolit la monarchie, que l'on institue le mariage civil et le divorce.
Bon, c'est logique, à partir du moment où le mariage n'est plus un sacrement mais un contrat entre deux individus, on a le droit de rompre ce contrat. Et la Révolution a été extrêmement libérale et pendant une courte période de temps, autorisait les époux à aller divorcer simplement sur simple mésentente, mauvaise humeur, etc. Consentement mutuel, ouais. Absolument. Ouais. Et c'est Napoléon qui va revisser, reboucler ça pour mettre bon ordre sur la société avec la bourgeoisie qui montait.
Mais il garde le divorce. En fait, il a été aboli en 1816 par Louis XVIII. Il est rétabli 70 ans plus tard par la Troisième République qui ne maintient que le divorce pour faute. C'est-à-dire qu'on refuse le consentement mutuel jusqu'en 1975, en fait.
Oui, c'est la loi de 1874, la loi Naquet, à laquelle se sont opposés très fermement tous les cléricaux, toute la droite, etc., ne mettait pas en péril le mariage, parce que c'était simplement remarquer que quelqu'un avait fait une faute dans le mariage et on punissait celui qui ne se comportait pas comme on attendait qu'il se comporte. Et c'est en 1975 que tout a changé, et encore.
Oui, ce qui va mettre en péril d'ailleurs le mariage, vous le rappelez, Martine Segalen, c'est qu'on se marie de moins en moins à partir des années 60 et on vit de plus en plus en concubinage en écoutant Georges Brassens.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Au diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Alors c'était la non-demande en mariage de Georges Brassens en 1966. Comment est-ce qu'on peut expliquer, à partir de cette date, Martine Segalen, l'essor de l'union libre, du concubinage, qui était une abomination pour le christianisme autrefois? C'est la baisse de la pratique religieuse? C'est quoi? Il y a sûrement beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de choses. C'est la montée du sentiment affectif et l'idée que c'est un sentiment privé et qu'après tout, l'État n'a rien à voir avec ça. Et c'est une très très grande révolution, une très grande libération dans la société, le fait de pouvoir maintenant fonder une famille sans passer, si vous voulez, par le mariage.
Il y a peut-être aussi le travail des femmes qui fait que
la contraception, libération de l'avortement, le fait que les femmes maintenant sont indépendantes, mais je crois qu'il y a une valorisation de l'affectif très importante et l'idée que pourquoi est-ce qu'il faut passer devant l'État, alors que au moment où le concubinat, enfin l'union libre se développe, on se donne le sentiment de le vivre un amour authentique et qu'on ne veut pas soumettre à un encadrement.
Et puis il y a peut-être aussi une inadaptation du mariage à l'évolution de la société, c'est ce qu'on a dit en tout cas lorsque a commencé le débat sur le pacte civil de solidarité. Le pacte, écoutez, un des premiers pactes de France au micro de France Inter en octobre 1998.
Oui, c'est un jour important parce que déjà on se sent concerné puisqu'on est, je vis avec un garçon et qu'apparemment ça risque de faciliter notre avenir. Et on se sent enfin reconnu puisqu'on parle de nous et qu'on on voit quelque chose de concret arriver. C'est-à-dire, pour notre avenir, on va maintenant pouvoir construire quelque chose à deux, sans se cacher, et pour que ce soit un peu plus facile. Bah, nous aussi, on peut aimer, et nous aussi, on peut s'investir, et nous aussi, on peut essayer de construire quelque chose, et grâce à ça, ce sera peut-être un peu plus facile. Ça ne sera pas un mariage. On ne mettra pas une robe blanche et un costard, on ira tout bêtement signer le formulaire et que ça soit officialisé. Voilà.
C'est pas un mariage, on vient de l'entendre, ce que dit un pacte de 98, c'est vrai que c'est pas vraiment un mariage. Qu'est-ce qui le distingue d'un mariage? Ou est-ce que c'est une nouvelle forme de mariage?
Non, ce qui le distingue d'un mariage, absolument, c'est que on peut pas adopter d'enfants, puisque en principe, les pacsés hommes, en tout cas, n'ont pas les moyens d'en faire ensemble. C'est différent pour les femmes. Et donc,
c'est un contrat qui, vous le rappelez, conclut la préfecture et pas la mairie.
Oui, mais enfin, on sait maintenant qu'il y a pas mal de mairies qui reçoivent les pacsés en voulant donner un aspect festif au mariage. Mais on a beaucoup dit, si vous voulez, dans ces années récentes, que les jeunes couples hétérosexuels feraient beaucoup plus de pacs qu'ils n'en ont fait en réalité, parce que les jeunes couples, ou bien ils sont en union libre et à un certain moment, ils décident de se marier. C'est ça qui a fait cette augmentation récente des mariages. Et ils ne choisissent pas tellement le pacs, sauf comme situation intermédiaire. Ça serait absolument le contraire de l'amour, parce que maintenant, ça reviendrait à se dire on va passer ce pacte uniquement pour des histoires matériel pour pouvoir avoir être rapprochés l'un de l'autre, par exemple si on est enseignant ou...
Donc le mariage traditionnel, selon vous, est de l'avenir encore?
Ah mais il n'est pas traditionnel du tout. Si je n'ai qu'une chose à dire en une minute, c'est qu'il n'est pas traditionnel, c'est qu'il a profondément changé dans son sens et même dans ses rituels, et que sous cette robe blanche, on célèbre des choses très différentes, puisque les mariés maintenant ont vécu depuis longtemps avec leur époux, qu'elles ont souvent des enfants.